Voilà, donc pour revenir, je vais essayer de faire un petit peu le lien avec ce qu'on a dit pendant la semaine précédente, peut-être hier soir aussi, et puis pouvoir introduire les personnes qui sont nouvelles aujourd'hui, surtout celles qui sont nouvelles dans la pratique, pour qu'on voit un petit peu de quoi il s'agit dans notre stage, ce que nous explorons dans le fond. Alors j'ai pensé prendre comme thème, comme cadre, les deux premières nobles vérités, mais c'est une manière très étonnante de vouloir parler, parce que noble vérité, comme si la vie, on pouvait la cerner avec des vérités. Ce que nous étudions ici, ce n'est pas tellement des nobles vérités, ni des vérités, ce que nous explorons ici, c'est la vie. La vie telle qu'elle se manifeste d'instant en instant, tel que nous la vivons d'instant en instant. Donc ce n'est pas tellement le bouddhisme que nous étudions ici, mais c'est notre propre vie. Alors, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas le faire à distance. Si nous étudions notre propre vie, ben, il s'agit aussi pour nous de nous mettre en jeu. On ne peut pas, si on était dans une école, un collège, une université, on pourrait étudier le bouddhisme, voilà, pour avoir les théories, les classifications. Mais là, ce n'est pas ce dont il s'agit. Il s'agit de s'explorer soi-même. Donc pas de se mettre à distance. Donc parler des deux premières nobles vérités, hein, voilà, ça paraît un petit peu abstrait, alors que je crois que ce qui est mis sous ces rubriques, c'est une exploration. Il avait une exploration extrêmement précise, intime de la condition humaine. Et ce qui est évoqué tout d'abord, c'est la condition, dans le fond, dans une première appréciation de ce qu'il y a qui laisse à désirer dans la vie humaine. Même si souvent on a envie d'éviter ceci, de ne pas regarder ce qu'il y a de vraiment, qui laisse à désirer, ce qu'il y a d'insatisfaisant. On a envie de l'oublier, on a beaucoup de moyens pour l'oublier, pour se perdre dans autre chose. Mais là, dans le fond, la méditation, la réflexion du Bouddha nous ramène à qu'est-ce que c'est que, dans le fond, une existence humaine? Non pas abstraitement, mais celle que nous vivons, que nous éprouvons. Alors on remarque évidemment qu'il y a des plaisirs, il y a des peines, des espérances, des déceptions. Avec différents éléments, dans le fond, qui font que la vie présente une certaine difficulté. Une difficulté, c'est que, dans le fond, nous ne la contrôlons pas. Il ne suffit pas de dire, tiens, aujourd'hui, ben moi, je suis partant pour une journée de bonheur. Voilà, demain, allez, il faut bien aller. Peut-être une demi-matinée d'un petit peu de souffrance, mais après, on repasse au bonheur. On sait très bien que ça ne joue pas comme ceci. C'est-à-dire que c'est hors de notre contrôle. Ce qui se passe dans la vie, c'est hors de nos contrôles. Donc il y a là déjà une première limitation qui fait que, d'une certaine manière, nous subissons la vie telle qu'elle se manifeste. Alors, on essaye plus ou moins habilement d'organiser les choses pour que ça se passe bien, mais ultimement, c'est au-delà de notre contrôle. Donc il y a déjà là une limite importante au-delà de notre contrôle. Et les choses changent constamment. Même si tout d'un coup on trouve une stratégie qui va bien, voilà, ça a l'air de jouer, là je suis bien, etc. On pourrait dire dans la salle de médite, vous dites là c'est super, puis le lendemain matin le soleil change, et puis vous dites oh là non, c'est beaucoup trop chaud, etc. Donc dans le fond, il n'y a pas quelque chose à quoi on peut faire confiance en se disant ben, la solution est là. On parle de choses assez simples dans la salle de méditation, mais dans la vie, les choses changent constamment. Quelquefois pour le mieux, mais elles changent constamment. Ce qui fait que on ne peut pas se reposer sur quelque chose, une situation, une personne, etc. Comme finalement on a trouvé la solution. On a trouvé la solution pour être transformé, cette vie, en une parfaite satisfaction. Alors, quand on dit ça, on peut dire, ouais, d'accord, oui, on comprend bien. Bon, on va essayer de faire au mieux. On va essayer d'avoir un petit peu de patience, de tolérance par rapport aux difficultés. Vous voyez, il y a des difficultés, des limitations. On se dit, bon, ben, on va essayer de faire au mieux avec ceci. C'est déjà bien quand on prend conscience des difficultés, puis on essaie d'en faire au mieux. Mais hein, ce qui est assez surprenant dans le cas du Bouddha, ce à quoi il nous invite, c'est que pour lui, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à dire, bon, voilà les conditions, bon, il y a la vieillesse, voilà, c'est quand même une difficulté, il y a la maladie, il y a la mort, on vit dans ce monde-là, on essaie de faire au mieux. Alors, non pas chercher une solution dans l'au-delà, après, comme certaines religions, ça ira mieux, je ne sais pas, après la mort, dans des promesses d'un au-delà pleinement satisfaisant. Donc ça, le Bouddha, ça ne lui convient pas parce qu'il dit on n'a aucune certitude. Comment on pourra être certain qu'après, ça sera mieux? C'est une croyance qui, dans le fond, nous fait éviter de prendre conscience, de faire face à ce qui se passe maintenant. D'éviter de voir la réalité. Donc ceci n'est pas une réponse pour la tradition bouddhique, pour d'autres personnes aussi. Donc ce qui est assez quand même surprenant, c'est pour le Bouddha de dire il y a une solution, on doit trouver une solution qui n'est pas dans un au-delà, mais une solution dans la difficulté de l'existence humaine. Redonner cette formulation que dans le fond, la solution est dans le problème lui-même. C'est-à-dire que la solution des difficultés par rapport à la vie humaine, elle se trouve dans la vie elle-même, dans une exploration de la vie elle-même, et non pas à l'extérieur. Dans des sortes de promesses consolantes. Et il explore. Évidemment, quand je dis il, c'est ce que nous essayons de faire aussi. C'est pas historique de ce que le Bouddha a fait. Alors, il explore dans le fond. Mais qu'est-ce qui fait que cette vie est insatisfaisante? Est-ce que c'est la réalité parce qu'on a un corps avec ses limites, parce qu'on vit dans un monde avec ses limites aussi et ses difficultés? Donc, qu'est-ce qui fait que cette vie est insatisfaisante? Et dans son introspection, son exploration, qu'est-ce que le Bouddha découvre? Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité du monde dans lequel nous trouvons qui fait qu'elle est insatisfaisante, difficile. Ce qui est problématique, ce n'est pas ni la vie, ni le monde. C'est notre confusion par rapport. C'est notre manière erronée de voir le monde dans lequel nous vivons, de nous voir. C'est cette manière erronée qui fait que nous sommes dans l'insatisfaction. Et non, ça, évidemment, c'est quelque chose qui a un potentiel immense. Parce que si la difficulté de l'existence ne vient pas de la réalité, on ne peut pas la changer, mais si elle vient de notre confusion par rapport à la réalité, alors on peut faire quelque chose. La confusion, on peut la changer. La réalité, on ne peut pas la changer. Ça arrange bien un petit peu quelquefois, mais c'est immensément limité. On ne va pas pouvoir éviter complètement la vieillesse, la maladie et la mort, donc les insatisfactions. Donc c'est immensément limité. Mais lorsqu'elle découvre que c'est la confusion qui fait que nous sommes dans l'insatisfaction, alors là, ça ouvre une porte immense, parce qu'on se dit, eh bien ça, la confusion qui est la mienne, certains aspects partagés, mais qui est essentiellement la mienne, alors Là se trouve la clé pour moi. Je trouve la clé, hein, du dépassement de l'insatisfaction, de la difficulté, de la condition humaine. Je la trouve en moi-même. J'ai moi-même la clé et elle se trouve dans la confusion ou dans le fait de me libérer de la confusion. Et ça, c'est extraordinaire comme hypothèse d'exploration. Ça n'a rien à voir avec la résignation. Bon, c'est comme ceci, il y a des limites dans la condition humaine, tant pis, on essaie de faire au mieux. Non, là, le Bouddha place la possibilité de dépasser. Et dans ses textes, il le dit de manière explicite. Qu'est-ce qu'on va dépasser? Dépasser la naissance, la vieillesse et la mort. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, c'est complètement surprenant qu'on peut dépasser la mort. On peut dépasser la mort. C'est quand même assez audacieux et ambitieux. N'empêche que c'est pour ça que vous êtes là. Pas juste parce qu'il fait assez chaud, c'est pas juste pour voir l'Ardèche, qui est très jolie, hein. Ou la bonne cuisine de Michel et de Philippe. Bon, ça c'est super, je suis d'accord que ça vaut le déplacement, mais quand même, là, ce qui est en jeu, c'est quand même finalement d'une exploration qui nous permet de sortir de ce conditionnement. Alors, je sais bien que dans nos méditations, c'est pas aussi évident. Quelquefois, on est dans la torpeur, on est dans la confusion, on est dans les émotions, et puis on se dit, oui, c'est le Bouddha, il dit, c'est la confusion, etc. Puis on peut la dépasser, mais enfin, ça semble quand même extrêmement, extrêmement loin. Évidemment, on rencontre, d'abord, on rencontre notre confusion. Et c'est bien elle qu'il faut rencontrer. On ne peut pas imaginer une sagesse qui serait déconnectée de la confusion. Il y a la confusion haute, puis on met quelques gouttes de sagesse ici, ça n'a pas de sens. La sagesse, c'est justement le fait d'aborder la confusion, de voir exactement pourquoi il y a la confusion, qu'est-ce que c'est que la confusion, pour que finalement, eh bien, on s'en libère. Pourquoi? Parce qu'on n'y croit plus à cette confusion. C'est-à-dire, on ne marche pas dans la combine. Il y a ces croyances qui surgissent et autres, et on ne se fait pas prendre. Mais pour ceci, évidemment, il faut bien être dans la confusion, pouvoir s'y intéresser et se rendre compte de ce qui est là d'imaginaire, dans le fond. La confusion, c'est pas la réalité. La confusion se passe à différents niveaux, dont on en a parlé la semaine précédente, sur l'impermanence, c'est-à-dire de voir, d'imaginer que les choses ont une certaine stabilité. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'enseignement du Bouddha, on parle de la souffrance de l'impermanence, et puis on parle aussi de voir l'impermanence comme moyen de libération. On a deux manières d'approcher l'impermanence. Dans un sutra, un moine est décrit qui traverse la place du village et qui est complètement serein, et quand une personne demande au moine qui est à côté d'elle, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il a lui? Pourquoi il est comme ceci? Eh bien, le moine répond, parce qu'il a réalisé l'impermanence. Il a réalisé l'impermanence, donc il y a un degré de sérénité. Donc, l'impermanence, elle est cause de la souffrance quand on y résiste. On voudrait bien que les choses soient stables, on essaie de les stabiliser, mais les choses changent. On voudrait enlever les rides, mais voilà, quand même, il y a un moment donné où on n'arrive pas à les effacer. Donc, une certaine approche de l'impermanence qui est douloureuse parce qu'on la refuse, parce qu'on voudrait stabiliser, on voudrait que les choses durent. Et puis, d'un coup, quand on accepte de couler avec l'impermanence, tout d'un coup, on se rend compte qu'au contraire, l'impermanence, c'est au contraire la clé de la liberté. Quand on la refuse, elle est douloureuse. Quand on arrive à l'accepter, tout d'un coup, elle devient vraiment une ouverture vers la liberté. On pourrait dire que une des clés qui nous permet de sortir du conditionnement, de l'insatisfaction, c'est l'impermanence. Mais évidemment, l'impermanence, c'est quelque chose d'assez radical. Quelquefois, on aimerait, oui, l'impermanence, c'est super, on voudrait bien l'impermanence, mais il y a des trucs qu'on veut garder permanents, quoi. Ouais, je suis d'accord, ça et ça, mais il y a quand même ça, il faut le garder, ça, il faut le garder, etc. On va garder un mois quand même permanent. Alors, il y a un mois permanent qui réalise l'impermanence, mais lui, on ne veut pas le mettre en jeu. Et bon, je l'exprime de manière amusante, mais c'est quand même essentiellement des choses comme ceci qui se passent. En étant un peu à distance de la méditation, oui, les choses changent, mais moi, je me maintiens dans une sorte de position où il y a une certaine confiance dans une stabilité, dans un moi qui serait immuable. Donc j'accepte une certaine impermanence, mais là je place un moi qui serait stable et immuable. Alors, c'est pas quelque chose d'abstrait. Si on réfléchit, on se rend bien compte que on a l'impression assez claire que, ben oui, je suis la même personne que j'étais hier, que celle que j'étais avant-hier, que j'étais il y a quelques années, etc. Ben, c'est moi. Je suis la même personne. Ça paraît quand même assez chouette, quoi. Je suis la même personne. Mais en explorant un peu l'impermanence, on se rend compte que tout change d'instant en instant. Rien ne passe d'un instant à l'autre. Rien. C'est-à-dire qu'à chaque instant, tout disparaît. Bon. À chaque instant, le monde réapparaît. Et il disparaît, réapparaît et disparaît. On rappelle au Ladakh, dans la vallée de la Noubra, j'arrivais devant un temple qui venait d'être construit par l'abbé du monastère que j'avais déjà rencontré une ou deux fois, et j'ai été complètement surpris sur la porte d'entrée d'un temple était marquée une phrase qui disait « Le Bouddha enseigne le surgissement des phénomènes et leur disparition. » Seulement ça. Le Bouddha enseigne le surgissement des phénomènes et leur disparition. C'est un résumé de l'essence de l'enseignement du Bouddha. Il dit que les choses surgissent et disparaissent, surgissent et disparaissent. On trouve ça évidemment dans les sutras les plus anciens, donc de trouver ceci sur un temple en Himalaya, quand même dans une région assez éloignée, c'était assez surprenant et dans le fond aussi... une raison de contentement en se rendant compte que la tradition, elle est complètement d'accord sur les points essentiels, parce que ça, c'est un point essentiel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, en général, nous voyons ce que nous pensons, mais nous ne voyons pas ce que nous voyons. Je vais quand même expliquer un peu ceci. Quand on entre dans la salle de méditation, par exemple, ben, on a toujours une vision partielle. À chaque pas, on a une vision différente. Là, à ce moment-là, moi, là, j'ai une vision comme ceci. Je ne vois pas le mur du fond. Vous voyez le mur du fond. Vous ne voyez pas l'autre mur. Donc, on a toujours des visions partielles. Et pourtant, en se déplaçant, on a l'impression qu'on se déplace exactement dans la même chose, dans la même salle. On construit cette salle-là. C'est un concept, une abstraction, et on se meut dans ceci. Constamment, on stabilise nos perceptions, et puis, voilà, je crois que je vois ce temple à ce moment-là, eh bien, je me déplace dans ceci, et ceci voile l'impermanence. Cette manière constante que nous avons de projeter sur ce qui est perçu une représentation qui est stable, qui vient se substituer, fait que nous avons l'impression de vivre dans quelque chose qui dure. Vous allez me dire, ben c'est pas très grave quand même. Le problème, c'est que ça a beaucoup d'implications. Ça veut dire que, d'abord, on n'est pas présent parce qu'on confond, ici l'imaginaire et ce qui est perçu. On croit que ce temple qu'on imagine ici, c'est celui qu'on voit. Et à ce moment-là, on ne peut pas être simplement dans l'expérience visuelle parce qu'on est dans une expérience mentale. Voilà, je vais revenir un peu sur le sujet pour l'aborder d'une manière un peu différente. Je vais revenir à deux sutras, dans le fond, des sutras les plus anciens. Voilà ce que dit l'un. Il dit « Laisse s'estomper ce qui est passé. N'attends rien ensuite. Si tu ne saisis rien entre les deux, tu vivras en paix. » C'est simple. « Laisse s'estomper ce qui est passé. N'attends rien ensuite. Si tu ne saisis rien entre les deux, c'est-à-dire on ne conceptualise pas, tu vivras en paix. » Ici, il parle du nirvana. Donc, on a ici l'essentiel, dans le fond, de j'allais dire la pratique méditative, non, de l'attitude dans la vie. Ce n'est pas juste dans la méditation qu'on fait ceci. Alors, une méditation qui serait bien, et puis dans la vie, on reviendrait à la confusion. Un autre sutra qui dit la même chose. « Ne courez pas après le passé, n'escomptez rien de l'avenir, le passé est laissé derrière, l'avenir n'est pas encore arrivé. » Donc là, on confond, ce qui est évoqué ici, c'est parce qu'on confond l'imaginaire et le réel. Si on veut, on peut résumer la confusion par cette confusion de confondre l'imaginaire avec le réel. Quand il dit « laisse le passé autre », eh bien, le passé, l'avenir, c'est imaginaire. On ne peut pas voir le passé, ni le goûter, ni le toucher, ni l'avenir. On ne peut pas le voir, l'entendre. On peut l'imaginer. On imagine l'avenir, on imagine le passé. C'est-à-dire on s'en souvient, mais c'est quand même quelque chose d'imaginaire. Parce que ce n'est pas une expérience visuelle. Même si vous avez une très très bonne mémoire, il manquera toujours quelque chose et vous ne pouvez rien rajouter. Sartre disait... Si on ne connaît pas le nombre de piliers du Panthéon, avec l'imagination, on ne peut pas les compter. Et on dit, ah ben voilà le Panthéon, moi je vais compter le nombre de piliers. Si vous ne savez pas, vous ne l'avez pas mis, c'est impossible. On ne peut pas tourner autour de quelque chose parce que c'est de l'imaginaire. Donc le fait de confondre l'imaginaire et le réel, ça c'est la confusion fondamentale. Et dans notre méditation, c'est exactement ce que nous explorons. Explorons les souvenirs qui surgissent, auxquels on donne un certain degré de réalité, l'anticipation, auxquels on donne aussi un degré de réalité. Si on ne leur donnait pas un certain degré de réalité, ils perdraient leur intérêt. Immédiatement, ça disparaîtrait. Un passé qui est réalisé comme passé, l'avenir de la même manière. J'ai donné l'autre jour l'exemple d'un catalogue de vacances, avec des super plages, etc. Vous pouvez le regarder chez vous, mais vous n'avez pas passé 15 jours à regarder ceci, parce que c'est évident, mais non, c'est pas le bord de la mer, c'est pas les montagnes, ce sont juste des images. Voilà, sur le papier, je peux les brûler, c'est pas la réalité. Mais la fascination que nous avons, nous, par rapport à nos souvenirs, c'est un peu comme si on leur donne une réalité qu'elles n'ont pas. Au moment où on réalise que ce sont que de l'imaginaire, à ce moment-là, la fascination disparaît, la fascination, la contrainte, le conditionnement disparaît. Maintenant, le passé qui surgit dans la méditation sous forme de mémoire, évidemment, ce qu'il fait surgir n'existe pas. C'est l'imaginaire, le lieu où j'étais, les personnes avec lesquelles j'ai parlé, etc. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le souvenir, mais pas le lieu que mon imagination fait surgir. De la même manière, pour le futur, ce que j'imagine la semaine prochaine, voilà, soit avec excitation, ça va être super, soit avec inquiétude, voilà, faut pas que j'oublie ceci. Ça n'existe pas. Dieu merci, imaginez-vous si le futur qu'on s'imagine existait. Il n'y aurait plus de choix, voilà, tout est déterminé. Bon, ben, on suit ce qui est déterminé. Évidemment, c'est inconcevable. Mais, donc, dans la méditation, il s'agit de reconnaître ceci, reconnaître les souvenirs comme étant l'imaginaire qui surgit dans l'instant, comme le futur comme étant de l'imaginaire qui surgit dans l'instant. Et le fait de les mettre dans l'instant présent les décrédibilise. Le fait de reconnaître que ceci se passe dans l'instant présent, que c'est une expérience présente, leur enlève leur possibilité de contrainte. C'est simple. Quand je dis simple, je ne veux pas dire que c'est facile parce qu'on s'y accroche, mais ce n'est pas quelque chose de compliqué où il faudrait tout d'un coup beaucoup réfléchir. Simplement, quand le souvenir est mis dans le présent, quand l'anticipation est mise dans le présent, ils sont plus crédibles. Et si vous ne me croyez pas, vous avez le droit, ben essayez. On est là pour ça, simplement tout d'un coup se rendre compte. Maintenant, si le souvenir n'est pas la réalité, il est l'imaginaire où l'anticipation est aussi simplement de l'imaginaire, mais il y a quelque chose qui est réel, c'est l'émotion que j'éprouve. Si là je suis dans un souvenir et que je suis triste, la tristesse, elle est actuelle. La tristesse, elle n'est pas imaginaire. Si je m'inquiète par rapport à ce qui va se passer la semaine prochaine, cette inquiétude, elle est réelle. Elle se passe à ce moment-là. Voilà pourquoi on invite toujours à prendre conscience des émotions qui accompagnent les souvenirs ou l'anticipation, parce que ça nous remet dans quelque chose qui est actuel. Oui, actuellement, ça m'inquiète, ça m'attriste, ou j'ai des regrets ou de la culpabilité par rapport à quelque chose qui s'est passé, mais ce regret-là, eh bien, il est là, il est présent. Je peux en faire l'expérience. Je peux en faire le lieu de la méditation. Pas l'endroit que j'imagine, disons, au bord de la mer la semaine passée. Ça, je ne peux pas faire de cet endroit-là le lieu de la méditation. Mais la tristesse ou autre qui surgit, là, je peux très bien l'intégrer dans la méditation. Donc, il s'agit de voir comment on éprouve quelque chose. Je reviens à une phrase que Joseph Goldstein répétait extrêmement souvent, j'imagine qu'il continue à la répéter, que nous avons entendu. Il disait, ce n'est pas l'expérience qui fait la méditation, c'est le rapport à l'expérience. C'est simple, ce n'est pas l'expérience qui fait la méditation, c'est le rapport à l'expérience. Ça veut dire qu'il y ait de l'agitation ou du calme, c'est pas ça qui fait la méditation. Personne pourrait venir et dire waouh, j'ai une bonne méditation, c'était calme, super, etc. Une autre personne pourrait venir dire ah, mais moi j'ai touché de l'inquiétude et autres. Ça ne nous dit rien sur la qualité de la méditation. On sait qu'une était plus agréable que l'autre, mais ça ne nous dit rien sur la qualité. Si la personne qui a éprouvé de l'inquiétude a pu être totalement présente à cette inquiétude, pouvoir s'y ouvrir, en découvrir la nature, à ce moment-là, on a dans cette expérience-là un degré de sagesse. Si la personne est dans le calme et qu'elle le saisit, et qu'elle s'y identifie, absorbe, eh bien, alors, c'est une bonne expérience, mais qui est dans la confusion. Or, la plupart du temps, eh bien, on juge la méditation selon le degré de calme, de joie, etc. Oh, c'était douloureux, donc c'était une mauvaise méditation, donc il faudrait quelque chose d'agréable. Ça ne veut pas dire qu'on va chercher le désagréable, mais de le juger ou l'agitation ou l'inquiétude de les juger comme des signes d'une mauvaise méditation, c'est pas judicieux. Parce que si c'est des signes d'une mauvaise méditation, on voudra les changer, et là on s'engage dans une anticipation d'une expérience où il n'y aura plus l'agitation et autres. C'est toujours être simplement avec ce qui est là, sans confusion. Tout notre programme est là. Être avec ce qui est là, sans confusion, c'est-à-dire aussi sans, en se disposant à faire l'expérience complète de ce qui est là. Nietzsche avait une expression extrêmement intéressante, il parle de l'amor fati. L'amor fati qui est l'amour du fait, l'amour de ce qui se passe, l'amour de ce qui est là, l'amor fati. Qu'il en a abondamment parlé, les commentaires aussi, c'est pas, il disait, il ne suffit pas simplement d'accepter ce qui se passe. Il faut l'aimer. Quand même. Hein. Voilà, les angoisses et autres, il ne faut pas simplement les accepter, il faut les aimer. Hein. Ouais. Là, il tire la corde un peu loin. Quoi. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que il ne suffit pas d'avoir une sorte de... d'acceptation qui dit ok, c'est bien, je veux pas rejeter ceci. Quand il dit il faut l'aimer, c'est-à-dire s'y intéresser, c'est-à-dire l'éprouver de manière plus intime pour en découvrir la nature. Vous voyez, c'est cet amour de la vie inconditionnelle qui fait qu'on va trouver la liberté dans l'amour de la vie, non pas à l'extérieur. On pourrait dire que la pratique de metta amène cette attitude d'ouverture par rapport aux expériences. Parce qu'elle mène à une sorte de disponibilité pour en faire l'expérience. Et c'est toujours la vie qui se manifeste, même à travers les difficultés. Vous voyez, si on voulait éliminer, alors on peut y aller. Alors, l'agitation, la torpeur, l'inquiétude, l'angoisse, les sensations désagréables, la vie, elle va être extrêmement limitée. Et si on veut disparaître quand se passent ces choses-là, elle va être très brève, la vie. Et ça va se résumer à quelques journées. Comme si on pouvait marchander avec la vie. Moi, je suis d'accord d'être en vie, d'être là, pour autant que ça soit agréable, qu'il n'y ait pas d'émotion, etc. Dans ce cas-là, je suis d'accord, mais autrement, non. De marchander avec la vie, comme si il y avait quelque chose qui nous disait « La vie, ça doit être quelque chose d'agréable et de sûr. » Ça, c'est la croyance. Maintenant, cette sérénité, sécurité, on ne va pas la trouver dans la vie elle-même, mais dans l'attitude d'ouverture. Lorsqu'on aborde la vie avec sagesse, en se rendant compte que on rajoute des choses qui nous conditionnent. Les Chinois ont cette image extrêmement parlante de l'artiste qui peint un tigre sur la muraille et part en courant. C'est ce qu'on fait constamment. Constamment. Des fois, c'est un tigre joli, on voudrait bien le caresser, mais enfin, c'est le même genre de truc. On n'arrête pas de peindre des tigres sur la muraille. Même la salle, là, c'est un tigre, quand vous rentrez, elle est stable. Donc, on revient à la pratique dans l'instant. Donc avec la zone d'ancrage, par exemple, quand on choisit une zone d'ancrage dans l'abdomen, dans la poitrine et autres, c'est parce qu'il peut y avoir beaucoup de confusion, il y a tellement de choses qui surgissent qu'on peut être dépassé, il y a des sons, des sensations, des pensées, des émotions, etc. Donc là, on arrive pas au donner de la tête, on revient à une zone d'ancrage, l'abdomen, la poitrine, simplement pour limiter un peu la quantité des expériences pour déjà essayer d'aborder une sphère plus restreinte avec une certaine clarté. C'est pas parce que les autres expériences seraient des défauts, des fautes, les pensées ou les émotions, non, simplement il se passe trop de choses, donc on vient à une pratique plus simple dans les zones d'ancrage, par exemple, limiter des sphères, on va évidemment encore reparler de ceci, pas parce qu'il y a des aspects de la vie qui sont faux, qui serait à éliminer, c'est la confusion qu'il faut éliminer. Donc on l'a dans notre méditation, on explore ceci. C'est vrai que c'est pas toujours évident. On l'explore dans la marche, on l'explore dans les transitions, etc. À chaque instant, on a la même possibilité d'être dans l'absence de confusion ou dans la confusion. Je vais juste donner un petit exemple pour nous rafraîchir un petit peu. Je ne sais pas si ça va marcher, mais je me rappelle la dernière fois que je suis allé au Kailash, cette montagne sacrée dans l'ouest du Tibet. On était en septembre, normalement il doit faire beau, mais là il pleuvait, nos jeeps étaient embourbés dans la boue, on n'en sortait plus, c'était vraiment, j'ai jamais vu ça, c'était vraiment comme s'il y avait une mousson. Et donc on prend 3 jours pour tourner autour du Kailash, c'est super, etc. Mais nous, on ne voyait pas la montagne. Mais on tournait autour sans voir la montagne. Voilà, avec le guide tibétain qui était un ami, il m'a dit « ouais, on la verra ». Je dis « non, on parie 20 dollars qu'on ne la verra pas ». Histoire de passer le temps. Et puis le dernier matin, on était en train de plier les tentes, etc. Et tout d'un coup, il y a des gens qui ont crié « ah voilà !» Et puis tout d'un coup, on voyait le Kailash. Il était vraiment là, c'était pas une sorte de mythe. Avec les nuages qui se déchiraient, etc. Dans la pratique, c'est un peu comme ça. Quelquefois, il y a du brouillard et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se déchire. On dit « ah ben voilà, c'est simple, c'est là ». Et puis, il n'y a pas juste des saisons, tout d'un coup, pendant 3 mois, il ne va pas y avoir de brouillard. En général, ça peut revenir, mais il y a ce côté de quelque chose qui s'ouvre, qui se déchire. Ça paraît évident, c'est simple. Et puis après, les différentes expériences, elles vont peut-être ramener un petit peu de brouillard. Mais il y a quand même ces ouvertures qui font que parfois, on dit tiens, c'est clair et c'est évident. Là, à ce moment-là, personne n'a pu douter qu'il n'y avait pas la montagne. Avant, ils auraient pu dire, ouais, bon, ou c'est un petit truc comme ça. Non, il était quand même assez grand. Donc là, quand dans l'expérience, tout d'un coup, on voit clairement, il n'y a pas de doute par rapport à la richesse du chemin dans lequel nous sommes engagés. Pour ceci, donc, nous pratiquons, nous essayons de donner quelques indications pour éclairer un petit peu la pratique. Évidemment, ça demande de la persévérance, mais... Vous rendez-vous compte, pour se libérer de la naissance et de la mort, ça vaut le coup de faire un peu d'effort. Hein. Se libérer de la naissance et de la mort. L'enjeu est immense. L'enjeu est immense. Et ce n'est pas une manière de parler, l'enjeu est immense. Donc ça vaut la peine de mettre un peu de cœur à l'ouvrage, que vous faites tous. Hein. Je ne suis pas en train de dire, faudrait vous réveiller. Non, je sais que vous le... Je sais que vous le faites, mais aussi pour vous encourager à continuer à le faire avec la même diligence.